petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Nous aimerions pouvoir distinguer le bien et le mal en fonction de nos valeurs morales. Mais ça ne se passe pas ainsi, car les réalités sont complexes. Les grands hommes jonglent même avec les faits, et les peuples les sifflent ou les applaudissent. Pour preuve, l'armistice du 8 mai 1945. Le chef de la délégation allemande, le général Keitel, qui sera condamné à mort à Nuremberg pour crime contre l'humanité, le général Keitel donc murmure en arrivant et en voyant le drapeau français sur la table de négociation, de reddition, il s'exclame, enfin il murmure, « Même les Français ?» Et oui, la présence de la France parmi les quatre futurs occupants de l'Allemagne nazie est une surprise. Officiellement, la France était vaincue depuis 1940 et son gouvernement officiel était celui du maréchal Pétain. Les FFI, forces françaises de l'intérieur, et les FFL, forces françaises libres, comme la division du général Leclerc par exemple, ont été des héros incontestablement. Mais ils étaient très très peu nombreux par rapport aux armées américaines, russes et britanniques. Il y a sans doute plusieurs raisons à cette victoire française contre l'Allemagne nazie, mais la principale est la volonté politique habile et indéfectible, celle du général de Gaulle. De Gaulle transforme la France vaincue en France victorieuse, alors que le moins qu'on puisse dire, ce n'était pas évident. C'est la marque d'un grand homme, la marque presque magique d'un chef d'exception. Néanmoins, la morale ce jour-là, 8 mai 1945, en prend un coup, car le héros ou le traître, le héros et le traître, ne se différencient pas comme le bien se différencie du mal. Non, le héros est celui qui gagne, le traître est celui qui perd. Pétain, le héros, devient le traître de 1944, et De Gaulle, le dissident de 1940, devient le héros de 1944. Et chaque fois, le même peuple applaudit. Alors attention, le même peuple applaudit, mais pas la même minorité agissante. Je ne confonds pas la milice et la résistance. En 2020, De Gaulle a été célébré pour 1890, sa naissance, 1970, sa mort, et 1940, l'appel du 18 juin. L'historienne Laurence, c'est dans la dernière revue étude de février, Laurence Devière, écrit, février 2021, écrit que les Français sont nostalgiques de De Gaulle. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que nous rêvons d'un retour imaginaire des années 1940 à 1970. En revanche, De Gaulle est entré dans le patrimoine national. Il n'est plus l'objet de polémiques. Il est reconnu par toutes et tous, ou presque, comme un grand homme de l'histoire de France. Pourquoi grand homme ? Parce qu'il cultivait la grandeur de la France, d'où sa fameuse formule du début de ses mémoires, « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France », et un peu plus loin, « La France ne peut être la France sans la grandeur ». Lui-même écrit « L'histoire, c'est la rencontre d'une volonté et d'un événement. Ça sonne comme du Hegel ». Ce philosophe allemand, 1770-1831, mort, entre parenthèses, d'une pandémie bien plus mortelle que le coronavirus, le choléra, et je ferme là la parenthèse. Pour Hegel, un chef politique est reconnu comme chef quand sa volonté politique, son ambition personnelle et ses idéaux passionnés correspondent à une période précise d'un peuple dont les aspirations ne sont pas totalement identiques à celles du chef, mais trouvent dans le grand homme l'expression apparente de ce que de ce qui motive ce peuple, de ce qui exalte ce peuple. Bonaparte, à une autre époque, s'il avait vécu à une autre époque que la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, serait resté sans doute un général sans bataille et peut-être même mis en prison pour sédition. Mais l'ambition de Bonaparte, l'ambition du pouvoir et de la conquête correspondent à une volonté populaire de trouver un chef qui mette de l'ordre à l'intérieur d'une France qui vient de sortir de la grande et de la petite terreur et repousse à l'extérieur les ennemis de la Révolution française sur toutes les frontières. Hegel appelle cette convergence, il appelle cela cette convergence entre le grand homme et le peuple, la ruse de la raison dans l'histoire. Cette ruse est maligne, au point que Napoléon le despote, fonde curieusement la démocratie du code civil et du code pénal et qu'il exporte dans toute l'Europe les idées de la Révolution française. Hegel ne prend pas en profondeur l'exemple de Napoléon, dont il est le contemporain, il en préfère d'autres exemples tels que celui de César. Mais l'historienne Laurence de Villiers voit dans De Gaulle le bon exemple de ce que Hegel appelle le grand homme en adéquation avec son temps. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord finalement. Pour Hegel, le grand homme est manipulé par l'histoire. Napoléon arrive à point nommé pour s'inscrire dans une logique de l'histoire qui déborde sa volonté politique personnelle. Ce n'est pas le cas de De Gaulle. Pétain, en 1940, incarne beaucoup mieux le grand homme hegélien en phase avec un peuple qui, en 1939, veut la paix à tout prix et tout de suite, et dont beaucoup voient dans Hitler le rempart contre Staline. Un peuple français, certes frustré d'une victoire attendue avec la ligne Maginot, mais un peuple qui souhaite l'ordre moral de la soi-disant révolution nationale de Pétain. De Gaulle, lui, n'est pas, en 1939-40, au diapason des aspirations des Français, sauf d'une minorité. De Gaulle n'est pas le jouet d'une logique de l'histoire. Il fait l'histoire. Il est acteur seul contre tous, ou presque. C'est là que je préfère l'interprétation malraxienne à celle de Hegel. Malraux pense l'inverse. Le grand homme est pour lui non pas l'incarnation d'un destin national prédestiné, prédéterminé. Il est au contraire ce que Malraux appelle un antidestin. quand tout semble perdu et que chacun abandonne, De Gaulle dit « Nous allons gagner et nous serons les vainqueurs avec nos alliés ». Bonaparte est dans le courant de l'histoire. De Gaulle est à contre-courant. Malraux fut l'ami, entre autres, de De Gaulle et de Mao Tse-tung. Chercher le point commun entre ces deux grands hommes, De Gaulle et Mao. Le point commun, pour Malraux, est que De Gaulle et Mao sont deux antidestins. Avec ces quelques gueux sans armes, Mao était a priori perdant face à l'armée moderne de Chiang Kai-shek. Antidestin, Mao va gagner. Malraux lui-même est un héros antidestin. Il est aux côtés des républicains espagnols vaincus. Et plus tard, il sera ministre de la Culture dans une France qui, en 1958, voit ces intellectuels flirter avec le marxisme. Malraux emploie l'expression « antidestin » principalement pour l'art, dont il est le plus important esthète éclairé du XXe siècle. Mais c'est la même philosophie pour les héros de ses romans. Donner du sens contre l'inhumanité du monde, c'est la fonction de l'artiste et du héros. Alors, la libération à son abdication en 1969, De Gaulle devient à ce moment-là davantage un héros hegélien. Il incarne une logique d'après-guerre, celle du Conseil national de la résistance, de son ami et bras droit Jean Moulin. Il va faire de grandes choses sous la 4e puis sous la 5e République, une nouvelle constitution en 1958, un nouveau franc, le vote des femmes, la décolonisation en Afrique occidentale et équatoriale, l'évitement d'une guerre civile à l'issue de la guerre d'Algérie, les ordonnances sur la sécurité sociale et les allocations familiales, la restauration de l'État républicain et du plan, la création des comités d'entreprise et plus tard des ordonnances sur la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, etc. Bien sûr, n'oublions pas l'audace de la politique étrangère appuyée sur l'accès à la bombe atomique 100% française. Depuis, tous les gouvernements français poursuivent cette politique étrangère. Le grand homme n'est ni conservateur, ni progressiste, il est vent debout contre toute fatalité défaitiste.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.